Alléluia, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 9. Nous parlons de l'onction. Alléluia. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a dit que l'onction était très importante parce que lorsque l'onction du Saint-Esprit était manifeste, l'onction créait une atmosphère. Et le thème du message était « L'onction crée l'atmosphère de miracle ». Et à partir de ce moment, tout devient possible. La guérison est rendue disponible. La délivrance est rendue disponible. La faveur divine est rendue disponible. La bénédiction est rendue disponible. La guérison est rendue disponible. En fait, lorsque l'onction du Saint-Esprit se manifeste, il y a une atmosphère de miracle qui s'installe au point où tout est rendu disponible. Tout ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, lorsque c'était crié, tout est accompli. Alors, le tout accompli de Jésus à la croix se rend disponible dans cette atmosphère. Et on a vu dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel. Et le mot ciel en hébreu est traduit par rakia. Rakia qui veut littéralement dire atmosphère. Et nous avons vu également que lorsque Dieu a créé Adam, il les a créés, il les a mis dans un jardin qu'il appelait Éden. Éden veut aussi dire atmosphère. Éden ne veut pas seulement dire jardin des délices, mais Éden veut également dire atmosphère. Et c'est pour cela qu'il est écrit que lorsqu'ils ont péché, Dieu les a sortis d'Éden. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et une autre tradition dit de la présence de Dieu. Donc de l'atmosphère en question. Vous comprenez qu'en fait, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, installe d'abord une atmosphère. Et dans nos vies également, si nous voulons vraiment vivre les miracles de Dieu, nous voulons vivre la bénédiction, nous voulons vivre la guérison, la restauration et tout ce que vous voulez, le tout accompli que Jésus a réalisé à la croix, nous devons rechercher cette atmosphère, ce rakia de Dieu dans nos vies, autour de nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Alors en ce moment-là, nous allons vivre le tout accompli, le miracle que Jésus-Christ a rendu disponible depuis la croix de Golgotha qui va maintenant se manifester en notre faveur. Amen, amen. On a compris donc que c'est important pour nous de vivre dans cette atmosphère. Parce que sans cette atmosphère, rien n'est rendu disponible et rien ne peut se faire. Parce qu'avant de créer la lumière, les fleuves, les arbres, les animaux et tout ce qui s'y trouve, d'abord il a créé rakia. Et dès que rakia a été créé, alors en ce moment, il a été capable, lui, Dieu, le Créateur, maintenant de dire que la lumière soit et la lumière fut. Donc il n'a pas eu création avant rakia. Il n'a pas eu création avant l'atmosphère. Il a d'abord créé l'atmosphère avant de créer toutes les composantes de la terre. Amen, amen. Donc quand l'atmosphère est créée, l'atmosphère est installée, alors en ce moment maintenant, Dieu peut agir. Dis à ton frère, Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Et donc, je vous ai expliqué un certain nombre de choses par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler maintenant de certaines clés, certains secrets qui vont nous aider au quotidien à manifester ce rakia, à manifester cette atmosphère dans nos vies, dans nos maisons et autour de nous, dans notre environnement. Et le texte que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est Hébreux chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 1. Dans ce texte, nous allons y puiser plusieurs clés. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pur pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et ainsi que les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre l'eau propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, mais nous allons essayer d'en parler en détail. Alléluia. Or, ces choses étaient ainsi disposées, et les sacrificateurs qui font le service, alléluia, et les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, verset 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait Ça, c'était à leur époque. Hein. Ce n'est pas à notre époque. Quand ils sont actuels, c'était à leur époque. Hein. Voilà, qui peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées selon jusqu'à une époque de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen. Donc dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons qu'avant le tabernacle vivant, le tabernacle spirituel de la nouvelle alliance, il existait un tabernacle fait de mains d'hommes. Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y avait en fait deux parties. Il y avait la première partie qui était le lieu saint et la deuxième partie qui était le lieu très saint. Parce que la cour extérieure, le parvis, n'était pas considéré en fait comme faisant partie du tabernacle de Dieu. Parce que le tabernacle de Dieu, c'est le symbole de la maison de Dieu. Okay? C'est-à-dire, c'est le symbole même de la présence de Dieu, je peux dire. Voilà. Quand on dit on rentre dans la présence de Dieu. Donc, le parvis ne faisait pas partie de la présence de Dieu. Le parvis, c'était une partie extérieure. Okay? Bon, quand on enseigne, effectivement, théologiquement, on dit trois parties, mais en réalité, il y avait deux parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit qu'en fait, le parvis extérieur sera foulé. Il a été donné aux nations pour être foulé aux pieds. Parce que ça ne fait pas partie, en fait, de la maison de l'Éternel, de la présence de Dieu. Donc, la première partie, c'est le lieu saint. La deuxième partie, c'est le lieu très saint. Donc, on va analyser ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que, vous comprenez, lorsque on parle d'atmosphère, on parle de rakia, on parle, en fait, de la présence de Dieu, pas dans le sens où Dieu lui-même est présent, c'est-à-dire en personne, parce qu'on ne peut pas supporter la présence de Dieu en personne. Ce n'est pas possible. Aucun homme n'a pu voir Dieu depuis ses propres yeux. Personne n'a jamais vu Dieu. Okay? Mais le Fils unique l'a fait connaître. Okay? Donc, tous ceux qui ont vu Dieu dans le sens que c'est écrit dans la Bible, en fait, ils ont vu des manifestations de Dieu sous plusieurs formes. Il s'est révélé à certains, par exemple, comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, à d'autres comme étant Jéhovah El Rapha, le Dieu qui guérit, El Elyon, le Dieu très haut, et quand sais-je encore, et j'en passe. Okay? Donc, ce sont des manifestations, des révélations de plusieurs facettes de Dieu que les hommes de Dieu qui ont marqué le cours de l'histoire de la Bible ont pu expérimenter. Et nous, aujourd'hui également, nous ne pouvons pas expérimenter Dieu dans son entièreté, dans le sens de voir Dieu en personne. Tout ce que nous pouvons vivre, ce sont des manifestations de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, sous plusieurs formes, sous plusieurs facettes, en fonction de notre relation avec Dieu, en fonction de ce que Dieu veut nous révéler par rapport à notre histoire, par rapport à notre destinée, par rapport à notre ministère, par rapport à notre vocation, notre appel. Quelqu'un me comprend ici? Acclame Jésus. Alléluia. Donc, pour que l'atmosphère, la Shekinah, ou le rakia de Dieu, descend dans un endroit, selon ce qu'on a dit dimanche dernier, parce qu'on a bien compris l'importance du rakia, de l'atmosphère, nous devons installer un certain nombre de choses dans notre vie, nous devons installer un certain nombre de choses dans notre maison, nous devons installer un certain nombre de choses dans notre ministère, dans nos églises, pour que cette Shekinah, pour que cette gloire, pour que ce rakia descende. Il dit qu'il y avait donc des ordonnances relatives au culte. Et ce tabernacle était fait de main d'homme, il préfigurait l'arrivée du tabernacle véritable et parfait, qui n'était rien d'autre que Christ. Et le tabernacle vivant, c'est son corps. Il est rentré avec son propre sang. Et nous allons voir également le parallèle par rapport à nos propres vies, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des tabernacles vivants. Donc dans nos vies également, ces principes que je vais énoncer s'appliquent. Pour que l'atmosphère du Saint-Esprit, le rakia de Dieu s'installe dans nos vies, nous devons installer, nous devons établir ces principes-là dans nos propres vies. C'est valable dans nos propres maisons, dans nos églises. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai envie de rentrer. Alléluia. Donc, il y avait des ordonnances. Dites des ordonnances. Et nous allons apprendre ces ordonnances-là. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le Saint des Saints, était le chandelier. Le chandelier. Le chandelier était en fait cet instrument ce support sur lequel on mettait des bougies pour éclairer en fait la pièce, pour éclairer la salle, éclairer le lieu saint. Donc le lieu saint était éclairé par un chandelier qui avait 7 flammes. Okay. Alors là, c'est encore une autre prédication, un autre enseignement sur les 7 flammes. L'Apocalypse parle des 7 esprits de Dieu. Okay. Je reviendrai dessus, je vous parlerai des 7 manifestations justement de l'onction, parce que ces 7 flammes-là représentent 7 manifestations du Saint-Esprit, 7 manifestations de l'onction. Okay. Et ça, c'est un autre message, ça viendra dans la série. Maintenant, l'importance ici, c'est de voir que ce chandelier représente le Saint-Esprit qui éclaire le lieu saint. Et vous devez savoir que l'être humain aussi, nous, en tant que chrétiens, puisqu'on parle de faire descendre le rakia de Dieu dans nos vies, nous sommes un tabernacle vivant et nous avons deux parties qui intéressent Dieu. Parce que la partie extérieure, c'est le parvis. En gros, nous avons trois parties. Comme le premier tabernacle, je veux dire, dans le sens large du terme, du sens théologique, on dit que c'est un tabernacle qui avait trois parties, donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais je vous ai dit tout à l'heure que véritablement, il y avait deux parties, ce lieu saint, le lieu très saint, parce que la partie extérieure elle a été foulée, donnée aux nations. C'est une partie, en fait, qui n'est pas intégrée à la présence de Dieu. De la même manière, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes un tabernacle vivant. Nous avons trois parties en réalité. Nous avons un corps, une âme et nous sommes esprit. Cependant, en fait, la présence de Dieu réside dans notre esprit. Okay? Et nous devons travailler à ce qu'elle s'installe dans notre âme. Mais notre corps sera également foulé. Parce que quand on meurt, ce corps, il est enterré et Dieu prépare en fait que lorsque nous serons avec lui en haut ou que nous serons allés à la rencontre du Seigneur, quand le Seigneur reviendra, que ce corps soit changé. Parce que ce corps-là que nous avons ne va pas rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu comme je l'ai expliqué dimanche dernier. Okay? Donc ce corps représente le parvis qui a été donné aux nations. Voilà pourquoi le diable peut attaquer ton corps. Même si tu es chrétien. Voilà pourquoi la maladie peut toucher ton corps. Parce que ton corps, c'est le parvis. Oh oh. Ça va, c'est bon? Voilà pourquoi certains chrétiens se posent la question, mais comment moi je suis chrétien? Et puis, je suis encore malade, je suis encore oppressé. Parce que ce corps-là, en fait, c'est un corps de péché, de la Bible. C'est le corps de la chair. OK? Et pour comprendre ça, permettez-moi la parenthèse. Lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, il les place dans le jardin d'Éden. Il donne une interdiction de ne pas manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, mais de manger uniquement le fruit de l'arbre de vie et toute semence portant la vie. Lorsque la femme a désobéi, que l'homme aussi a désobéi, Dieu va tous, entre guillemets, les juger. Et puis, quand il juge le serpent, retenez que le serpent, c'est le symbole de Satan, il dit au serpent, en fait, tu vas marcher sur ton ventre, donc tu vas ramper, et il lui dit que tu vas manger la poussière de la terre tous les jours de ta vie. En d'autres termes, la nourriture du serpent, c'est la poussière de la terre. Or, et vous vous souvenez que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme de la poussière de la terre. Vous comprenez cela? Mais quand on dit qu'il a créé l'homme de la poussière de la terre, il faut expliquer. C'est quelle partie de l'homme qui a été créée de la poussière de la terre? Ce n'est pas son esprit. Parce que son esprit a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc son esprit ne peut pas être de la poussière de la terre. Mais la Bible utilise deux verbes. Il utilise le verbe former et le verbe créer. En ce qui concerne l'esprit, la Bible utilise le verbe créer. Donc on a été créé à l'image de Dieu. Notre esprit a été créé à l'image de Dieu. Dieu étant le Père des esprits. Maintenant, en ce qui concerne le corps, la Bible déclare qu'il a formé un corps de la poussière de la terre. Quelqu'un me comprend ici? Donc voilà. Maintenant, il dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc à cause du péché, écoutez-moi bien, le corps a été donné au serpent. Parce que le corps a été formé la poussière de la terre. Et quand il dit tu mangeras la poussière de la terre, en fait, il veut dire, tu mangeras le corps de la chair humaine. Voilà pourquoi le diable attaque le corps de l'être humain. Voilà pourquoi la maladie t'attaque. Voilà pourquoi l'oppression peut atteindre ton corps. Voilà pourquoi tu es tout le temps fatigué, tu as comme des courbatures, tu as toujours des douleurs bizarres. Parce que ce corps-là a été donné au serpent. C'est la poussière. Même quand Dieu parle à Abraham, il dit, tu auras la postérité des étoiles, n'est-ce pas? Il dit également, tu auras la postérité de la poussière. Il parle de deux postérités. La postérité des étoiles, qui symbolise les gens qui sont nés de nouveau, qui sont assis. Les étoiles sont toujours au ciel, n'est-ce pas? Voilà. Les gens qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc nous, les nés de nouveau. En fait, il parle du nouvel homme en Christ. Il parle de la nouvelle création. C'est la postérité des étoiles, la nouvelle création. Celle-là, le diable ne peut pas la toucher. Celle-là, le diable ne peut pas la tuer. Celle-là, c'est une espèce qui ne peut pas être saisie, parce que ce sont des étoiles, ils sont en haut dans le ciel. pour les atteindre, il faut aller là-bas. Or, le diable ne peut pas nous atteindre là où nous sommes. Donc, voilà pourquoi même l'apôtre Jean de l'amour dit « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. » En fait, il parle de cette postérité-là, des étoiles. Quelqu'un me comprend ici? Carré, brochica, mamamamama. Ok? Donc, ton esprit, le diable ne peut pas le toucher. C'est pour cela que le diable ne peut pas te tuer. Parce que pour que tu meurs, il faut qu'il t'arrache ton esprit. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Et comme il ne peut pas t'arracher ton esprit, vous savez, depuis que Jésus est mort à la croix, avant que Jésus ne meure, le diable avait le pouvoir de tuer tout le monde, tous les êtres humains, croyants ou non croyants. Le diable avait le pouvoir de les tuer. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il avait le pouvoir de la mort. Il détenait entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Mais quand Jésus meurt, il descend aux enfers. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dépouiller les dominations, les autorités, les principautés. Il va publiquement les livrer en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et il va arracher entre les mains de Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible déclare que ce jour-là, un phénomène s'est produit. Tous les morts, tous les saints qui étaient morts dans l'ancienne alliance sont ressuscités. Et ils sont apparus au plus grand nombre. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Quelqu'un me comprend ici? Pour montrer qu'en fait, même les saints qui étaient morts étaient tenus captifs par celui qui avait le pouvoir de la mort. Et maintenant que Jésus lui a arraché les clés de la mort et lui séjour des morts, tous les saints qui étaient tenus captifs ont été libérés. Et ils sont tous ressuscités. Alléluia! Et c'est la préfiguration de ta nouvelle naissance. Tu étais mort, enchaîné par le diable. Et maintenant que Jésus est mort à la croix, il a dépouillé Satan et ses démons. La puissance de l'ennemi, il a brisé tout son pouvoir qui te tenait captif. Et il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Ce jour, tu as été libéré. C'est pourquoi maintenant, en Christ Jésus, tu es ressuscité. Ton esprit qui était mort est ressuscité. Oh, on acclame Jésus. Alléluia! Alléluia. Et c'est ça, quand on célèbre Pâques, on célèbre la résurrection. En fait, c'est ça, la résurrection. Il faut penser à ces images-là. C'est compliqué, mais c'est aussi simple. Alléluia. Il faut capter ça avec l'esprit. Il faut comprendre ça avec l'esprit et non avec l'intelligence humaine. Amen, amen. Donc, depuis que Jésus est mort à la croix, qu'il est descendu aux enfers, qu'il a vaincu le diable et ses démons, qu'il a arraché entre les mains de Satan les clés de la mort et du séjour des morts, depuis ce jour, les saints ont été libérés du séjour des morts. Le diable ne peut plus tenir captif un saint dans la mort. Depuis ce jour, le diable a perdu son pouvoir sur les chrétiens. Et depuis ce jour, le diable ne peut plus tuer aucun chrétien. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, plus fort que ça. Ah, cette lumière, cette réalité spirituelle, ça me donne une telle foi. J'ai une telle foi même pour toi, que quelle que soit la maladie qui tourmente ton corps, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras aussi longtemps que Dieu le veut sur la terre. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ne regarde pas ton corps qui se détruit. La Bible dit que si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle dans la connaissance de Christ. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que pour contrer la loi de la mort, pour empêcher au corps d'entraîner l'esprit de la mort, Dieu va donner naissance à une autre loi. Il dit, dans mon corps, dans ma chair, il y a ce côté où je veux faire ce qui est bien, mais je n'arrive pas à le faire. Ce qui est bien, je sais ce qui est bien, et je dois le faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais je sens en moi, dans mon corps, dans ma chair, une autre loi qui lutte et qui me pousse à faire ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas. Il est cet écrit, il dit, mais malheur à moi qui me délivrera de ce corps de chair. Alléluia. Qui me délivrera de ce corps et de ses pressions. Qui me délivrera de la loi de ce corps. De la loi de la mort. Et la réponse, c'est dans la suite. Il dit, mais gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh my God! Donc, il y a une autre loi qui va venir avec la nouvelle création. À travers le sacrifice de Christ à la croix, à travers la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient avec une autre loi qui va contrer la loi de la mort qui agit dans nos corps. C'est la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Ça veut dire que ton corps peut être attaqué parce qu'effectivement, selon la loi de la mort, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ce corps a péché, il a été donné au serpent comme nourriture, comme poussière à manger. Mais pour sauver ce corps de la maladie, pour sauver ce corps de la mort, Dieu a donné une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Donc le diable peut attaquer le corps d'un chrétien, mais le diable ne peut pas tuer un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de nous attaquer dans notre corps à cause du péché qui est dans ce corps. Me suivez? Là, je parle du parvis extérieur. Je suis dans le tabernacle là. Hein? Je parle du parvis extérieur. Et ça a été donné pour être foulé aux pieds par les nations, par le serpent. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa grâce, dans son amour infini, même s'il sait que Satan a raison d'attaquer ce corps, il va mettre en place une loi qui va contrer l'action de Satan pour empêcher que Satan entraîne ce corps à la mort. C'est pourquoi il dit, béni soit Dieu, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi le diable ne peut plus tuer un chrétien, un saint, parce que dans les chrétiens habite la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est cette onction-là, cette puissance-là qui empêche au diable de tuer notre corps, quand bien même il a le droit de le toucher. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici ce matin. Peu importe le diagnostic des médecins dans ta vie, sur ton corps, peu importe la maladie qui a été diagnostiquée, que cette maladie ait un traitement ou pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus a franchi ton corps de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi il est écrit que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Il y a une grande destinée sur ta vie. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi d'avance afin que tu les pratiques. Tant que tu n'as pas fini de les pratiquer, tu ne mourras pas. Il te connaissait déjà depuis le sein de ta mère. Il t'avait formé. Et lorsqu'il te tissait dans le ventre de ta mère, il connaissait tout le nombre de jours qui t'étaient destinés sur la terre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Tant que ces jours ne sont pas atteints, tu ne mourras pas. Tant que le nombre de ces jours n'est pas atteint, tu ne mourras pas. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Ah. Alors du coup, la maladie n'est plus un problème. Quand le diable attaque ton corps, la maladie n'est plus un problème. C'est un chatouillement. C'est Satan. Quand Dieu permet que la maladie t'attaque, ou du moins la maladie touche ton corps, considère ça comme un chatouillement. Mais un guili-guili. Tu dors dans la paix. Oh Satan, quand tu as mal, oh Satan, arrête de me faire les guili-guili, Satan. Quelqu'un ici accorde le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit que, ah, prophète, oui, c'est ça la foi. Il y a un pasteur qui dérangeait tellement le monde des ténèbres, il faisait des délivrances. Et les satanistes de la ville se sont soulevés contre lui, contre son ministère. Vous savez que Satan fait des propositions. Comme il a fait à Jésus, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le royaume de la terre, la puissance, la gloire. Satan s'est révélé à ce pasteur. Il sortait d'une délivrance dure. À 3h du matin, il rentre chez lui, il était fatigué. Il s'est douché, il a rendu grâce à Dieu, il dort. Il éteint la lumière. Tout d'un coup, dans la chambre, il voit comme des éclairs sur le mur. Et il voit comme un dessin comme ça qui se forme. Il voit une tête, il voit l'enfer. Et puis, il voit un être qui apparaît. Il dit, Satan n'est pas comme on le décrit dans les livres, dans les films, un être bizarre, monstre avec des cornes. Non, non, il dit non. Ça c'est une représentation. Peut-être, bon, les gens veulent représenter le mal, je peux comprendre. Mais il dit, Satan, c'est un ange, puisque c'est un ange. Il dit, c'est un ange de lumière. Il a un éclat. C'est comme un beau garçon. Il dit qu'il apparaît comme ça. Un bel homme. garçon. Il a dit, voilà. Il dit, mais toi, c'est qui? Il dit, je suis Lucifer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis venu te proposer un marché. Il dit, c'est quoi que tu veux? Il dit, bon, voilà. Tu arrêtes de prêcher dans cette ville-là, dans cette nation. Tu arrêtes de prêcher sur ce nom-là. Il ne prononce pas Jésus, non. Tu arrêtes de prêcher sur ce nom. Et il lui a donné la liste de messages qu'il ne doit plus prêcher parce que ça le dérange et ça dérange le royaume des ténèbres. Il a dit, sanctification, tu ne prêches pas. Puissance, là, tu ne prêches pas. Nom de Jésus, tu ne prêches pas. Sang de Jésus, là, tu ne prêches pas. Donc, voilà. Maintenant, tu peux prêcher le reste. Tu peux prêcher tout. Enfin, voilà, la bonne conduite, la bonne moralité, tout ça. Bon, tu vois, des choses bien, tu vois, tranquille. Voilà, voilà, voilà. Mais ça, tu ne touches pas. Tu peux prêcher bénédiction, prospérité, parce que ça aussi, je donne. Hein. Tu peux prêcher finance, argent, succès, réussite. Ça aussi, je donne. Mais les autres messages, ça ne touche pas ça. Si tu acceptes le marché, je vais faire de toi un grand pasteur dans le monde. Je vais t'envoyer les âmes vraiment en masse. Tu n'auras même plus de place. Tu vas avoir la plus grande église du monde. Tu seras l'homme le plus connu du monde. Et tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu seras riche. Le pasteur était là. Et quand il a fini de parler, il lui a posé la question. Tu as fini, Satan? Il dit, oui, j'ai fini. Il dit, bon... Je pensais que tu avais quelque chose de plus important et de plus intéressant à me proposer. Bonne nuit. Et quand il a dit à Satan, bonne nuit, il a fermé ses yeux. Pouf, il s'est endormi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, hein? Moi là, d'abord quand je vois éclair là, je bondis de mon lit. Kurabashaka, ta 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 ta. Mais comment il a fait pour être aussi en paix, aussi tranquille? Comment il a fait? Et en plus, il sait qu'il parle à Lucifer. Et quand il finit de parler, il parle tranquillement, il est sur son lit couché. Et puis après, il dit, bonne nuit, il dort. Même pas vérifier qu'il est parti. Moi, là, je me dis que je ne dors pas avant d'être sûr qu'il est parti. Je vais le chasser, je vais le prendre, je vais l'accompagner à la porte. Je vais coup de pied jusqu'à ce qu'il fuit. Et c'est sûr même que si je le vois fuir, je ne vais pas dormir. On acclame Jésus. Je ne vais pas dormir. Je vais improviser, veiller de prière, mon frère, n'est-ce pas? On va veiller toute la nuit. Pour barricader, pour être sûr que, hein, on va évoquer le sang de Jésus. On va badgerer le sang de Jésus partout. Lui, il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas fait prier de combat. Il n'a pas fait... Non, il a dormi dans la paix. Oh, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, c'est fort. Ça, c'est une dimension de foi. C'est pourquoi il dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est ça, la foi ferme. Elle est tranquille, imperturbable. Elle est en paix, paisible. Quand il a fait ça, le diable est parti. Le diable ne l'a pas tué. C'est pourquoi je dis que quand le diable touche ton corps là-même, il rentre dans ta chambre, tu dis, laisse-moi dormir, laisse-moi, ne me fais pas guili-guili là. Quelqu'un me comprend ici? Il faut avoir cette dimension de foi. Le diable ne peut pas tuer les chrétiens, nés de nouveau, authentiques, les saints. Le diable ne peut plus les tuer. C'est terminé. Quand la maladie t'attaque, quand l'oppression vient, sache et réalise cela. Intègre ça dans ton esprit. Le diable ne pourra pas te tuer. La maladie ne pourra pas te tuer. La malédiction ne pourra pas bloquer ta vie. Les sorciers ne pourront pas bloquer ta vie. Rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Rien, 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 rien. Tu vivras aussi longtemps que le Seigneur le veut sur la terre et tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Aussi longtemps que tu restes dans la présence de Dieu, dans le rakia de Dieu, que tu demeures dans sa présence, comme David a dit, mon désir ardent, mon vœu suprême, c'est d'être dans ta présence. Aussi longtemps que tu marches dans ses voies, dans la sanctification, dans l'obéissance, le diable ne pourra pas te toucher. Et maintenant, quelqu'un me pose la question, mais pourquoi certains chrétiens meurent? Je vais t'expliquer. Quand maintenant ton temps est arrivé sur la terre, le nombre de jours qui t'étaient destinés sur la terre, tu as accompli les œuvres de l'Éternel, c'est terminé, ton temps est terminé, ta mission est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On te rapatrie. On te ramène vers ta patrie. Est-ce que c'est une malédiction de repartir vers sa patrie? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia! Donc finalement, qu'est-ce que Dieu fait? Quand c'est le temps pour toi de partir, Dieu utilise n'importe quel moyen de locomotion. Moi, quand je vais au Gabon, je n'ai qu'un seul moyen, c'est l'avion. Mais tu vas à Paris, tu peux prendre le TGV, tu peux prendre l'avion, tu peux prendre la voiture. N'est-ce pas? Voilà. Blablacar. Maintenant, je vais vous dire une chose. La maladie et toutes les attaques démoniaques, sorcellerie, tout ça là, pour le chrétien, deviennent des moyens de transport. Or, un moyen de transport, c'est quelque chose qui est à ton service. Donc, quand ton temps est arrivé de partir, la maladie se met à ton service et te transporte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. En ce moment, la mort pour toi n'est plus un ennemi. La mort devient un gain. La mort devient un moyen de transport qui te transporte vers ta patrie céleste. Mais pas avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Oh, je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les sorciers ne pourront rien faire contre ta vie. Ils viendront à toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. La maladie ne pourra pas t'emporter. Tu vivras. Et les sorciers ne pourront pas te tuer. C'est toi qui as l'autorité sur leur vie. Tu ne mourras pas. Tout ce que tu ressens dans ton corps, dans ta chair, ce ne sont que des manifestations de chatouillement de Satan. Mais la loi de l'esprit de vie qui est en toi t'a franchi de la loi du péché, de la mort. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Le chandelier, je ne suis qu'à ce niveau. Le chandelier, donc, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la loi de l'esprit de vie qui agit en nous, qui donne la vie à nos corps mortels. Et donc, il faut que nous puissions rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est la première clé pour que le raquia de Dieu soit manifeste. Il faut que nous puissions rechercher la présence du Saint-Esprit qui illumine nos vies comme le chandelier illuminait, éclairait le lieu saint. Il faut que le Saint-Esprit éclaire ton âme. Parce que si ton corps, c'est le parvis, le lieu saint, c'est ton âme. Et ton esprit, c'est le lieu très saint. Et donc, notre âme a besoin d'être éclairée par le Saint-Esprit. Parce que notre âme est ténébreuse. Voilà pourquoi la Bible déclare que recevez avec douceur la parole qui vous est prêchée, la parole de vérité, celle qui pourra sauver vos âmes. Notre âme a besoin d'être sauvée. Voilà pourquoi la nouvelle naissance se fait aussi au niveau de l'esprit, mais aussi de l'âme. La conversion doit en fait toucher l'âme. Voilà pourquoi on parle de sauver notre âme. Notre âme doit aussi être sauvée. Et quand Jésus dit, parlant du Saint-Esprit, il dit à la femme samaritaine, « Cette eau deviendra en toi des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. » Il veut dire qu'en fait, quand le Saint-Esprit vient en nous, ce Saint-Esprit-là, comme des fleuves d'eau vive, doit couler de notre sein jusqu'à toucher notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme a été colonisée, a été en esclavage pendant longtemps et avait pour maître notre corps, la chair, qui lui dictait les désirs. Voilà pourquoi on parle des désirs de la chair. Va fumer, va voler, faut mentir, ment un peu pour t'échapper parce que tu sais, dans la vie là. Non, ça c'est le corps, la chair qui dictait cette conduite à l'âme. Donc pendant des siècles, l'âme a été sous le gouvernement et sous l'influence de la chair. Donc l'âme a été habituée à obéir à la chair. Or l'âme est le siège de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de tout ce qu'on ressent, de notre raisonnement. L'âme est le siège de notre culture même, notre façon de voir la vie, notre perception. Tout c'est dans l'âme, l'intelligence, tout c'est dans l'âme. Donc ça veut dire que lorsque l'âme est sous le contrôle de la chair, tout ce que tu fais est influencé par la chair. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont très intelligents, mais dans le vol. Mais je vous assure que je me demande comment ils font pour braquer les banques, pour voler sans que personne ne s'aperçoive, ou bien ils travaillent dans certaines banques et qui arrivent à voler pendant plusieurs années sans que personne ne s'en aperçoive avec toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Mais c'est de l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'une autre intelligence. Parce que l'intelligence humaine que Dieu nous a donnée au départ a été souillée par la chair. Voilà pourquoi Dieu est obligé, quand on se convertit, de renouveler aussi notre intelligence. Pour que l'intelligence que tu avais pour faire les plans stratégiques machiavéliques là, dans le monde, là, que cette intelligence soit renouvelée maintenant pour que tu puisses maintenant avoir des idées créatrices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je sens que le Saint-Esprit a soulevé un sujet très lourd. Parce que là, je ne suis qu'encore au niveau du chandelier. Je vais encore revenir sur le Saint-Esprit la semaine prochaine. Vous montrer le Saint-Esprit, comment il agit dans l'âme. Comment vous pouvez arriver à entendre la voix de Dieu alors qu'avant, vous ne l'attendiez pas. Pourquoi? Parce que l'âme a été souillée par son ancien maître, la chair. Vous étiez habitué à entendre la voix du diable, la voix de vos propres pensées, la voix des démons. Maintenant, pour que le rakia de Dieu s'installe dans le temple que vous êtes, hein, il faut effectivement qu'à ce niveau-là, le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le chandelier soit allumé, que les sept lumières du chandelier soient allumées. C'est quoi ces sept lumières? Ça, c'est encore un autre chapitre. Mais c'est là que vous entendez. Parfois, il me pose la question, mais comment tu fais pour entendre le nom de quelqu'un, le nom, le prénom de quelqu'un? Des fois, j'entends le nom, prénom de quelqu'un, des gens, numéro de téléphone. Je vois des choses comme ce matin. Je vois dans la vie des gens. Comment tu fais? En fait, tu n'as pas forcément besoin d'être un prophète dans le sens du ministère pour faire ce que je fais. Vous savez, il existe deux types de prophètes. Il y a un prophète qu'on appelle voyant. En hébreu, le mot c'est Nabi, qui veut dire voyant. Mais il y a aussi un autre type de prophète, toujours en hébreu, on l'appelle Ra, R-2-A-H. Le Ra n'est pas un voyant. Le Ra dont je parle, R-2-A-H, c'est le type de prophète qui parle et qui annonce les oracles de l'Éternel. Je vais redire, on n'est pas tous appelés à être voyants, mais nous sommes tous appelés. La nouvelle alliance à être des rats. C'est pas rat, rat. Parce que tu es un rat, la souris peut. Le chat peut manger la souris. Quelqu'un veut comprendre? Le démon peut se déguiser en chat pour te manger. Non, je parle de rat. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a fait de nous un peuple des rois, des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans cette nouvelle génération qui, par la parole, nous annonçons les oracles de l'Éternel et nous appelons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Par la parole, nous créons. Voilà pourquoi Dieu, quand le rakia s'est installé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, je vais vous dire une chose. Entre les deux types de prophètes, selon vous, qui est le plus grand? Le voyant ou le ra? Les voyants, levez la main. Ils ont tous compris. Acclamez-vous vous-même. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui convoitent en fait. C'est que certains prophètes font. Ah, mais si je pouvais faire comme le prophète m'a dit, voir comme ça. Non, ce n'est pas la dimension la plus grande. Parce que je peux voir. Tu t'appelles tel, tel, tel. Ton numéro de téléphone, c'est ça. Tu es né en telle année. Ta mère, c'est telle. Ton père, c'est telle. Et après, qui va payer mes factures? Parce que le huissier, demain, il va encore se pointer. J'ai encore des lettres recommandées. Quelqu'un me comprend ainsi? Mais la dimension du rat, donc la parole, affecte ta vie et crée les choses qui ne sont pas, les amène à l'existence. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Alléluia! C'est pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Parce que la parole est Dieu. Alors la parole, c'est la dimension la plus importante. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui soutient toutes choses dans le monde. Donc la dimension de voir est bien. Mais ce qui est meilleur, c'est la dimension de la parole. Et je vais vous montrer comment, effectivement, vous pouvez faire comme Dieu. Quand Dieu a fini de créer le ciel, l'atmosphère s'est installée, le rakia, et Dieu a pu dire que la lumière soit. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a créé le rakia, le ciel, et le moment où il a dit que la lumière soit, que les arbres apparaissent, que les fleuves, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où l'atmosphère s'est installée et au moment où il a parlé? Il s'est passé quelque chose qu'on découvrira dans Job. Il dit au moment où il a fait ça, quand il a créé les cieux et la terre, Job nous révèle qu'une chorale céleste éclatait en chant de triomphe. My God! Ça veut dire que le secret qui a donné la puissance à la parole de Dieu pour que Dieu crée la lumière, que Dieu crée le ciel, la terre, tout ce qui existe, c'est la chorale céleste. Mais c'est quoi la chorale céleste? La chorale céleste, c'est une composition d'anges. Okay? On va voir les chérubins de la gloire, on parlera des chérubins de la gloire, les anges de l'adoration qui a la présence de Dieu. Mais la chorale céleste ici, c'est surtout la révélation, l'expression
de quelque chose. Quelque chose qui est plus important que la présence des anges. Et quelque chose même qui attire la présence des anges. Parce que les anges sont là à cause de ça. Cette chose, c'est l'adoration. My God. C'est la louange et l'adoration. Donc quand Dieu a dit qu'il a créé le ciel, l'atmosphère, le firmament. Parce que dans Rakia, il y a la dimension du firmament. C'est la première dimension. Il a créé le firmament. Et avant qu'il ne parle, d'abord une chorale céleste a éclaté en chant de triomphe. Donc ils ont loué le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont chanté. Donc pendant qu'ils chantaient, ils ont relâché maintenant la deuxième dimension du Rakia qu'on appelle l'atmosphère. Donc c'est la louange, l'adoration des anges, des séraphins, tout le reste dans le ciel qui a libéré l'atmosphère dans le firmament, le rakia. Quelqu'un me comprend ici? Donc, l'atmosphère là, qu'on appelle rakia est venue par la louange et par l'adoration. Et ce n'est qu'en cet instant-là que maintenant Dieu a pu ouvrir la bouche et dire que la lumière soit. Voilà pourquoi il est important, quand un homme de Dieu prêche, d'entretenir par la louange et l'adoration. Rébrochikala. Quelqu'un me comprend ici? Dites le chandelier, le Saint-Esprit. Lève-nous, on va prier. On va arrêter là. Un exercice que je vous donne aujourd'hui. Vous avez compris c'est quoi le parvis pour vous, votre corps. Vous avez compris que le lieu saint, c'est l'âme. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Il y avait la table et des pains de proposition. La table, c'est la Sainte Cène. Les pains de proposition, c'est la parole. La parole écrite. Parce qu'on verra un autre type de parole quand on va attaquer la partie du lieu très saint. À l'intérieur du lieu très saint, il y a ce qu'on appelle la manne. La manne, c'est un autre type de parole. C'est la parole qui vient d'en haut, qui descend du ciel. La parole révélée. Mais dans le lieu saint, il y avait donc le chandelier, donc la présence du Saint-Esprit. Il y avait la table, c'est la communion, le symbole de la communion, la table. Il y avait les pains de proposition, donc c'est la parole écrite. Pour ce dimanche, retenez cette partie. Le lieu saint, le chandelier d'or, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, la table, c'est la communion. Et les pains de proposition, c'est la parole écrite. Ce sont les premières choses, les premières ordonnances, dites ordonnances, que le Seigneur vous donne aujourd'hui, que vous devez pratiquer durant cette semaine pour déclencher l'atmosphère, pour installer l'atmosphère de miracle dans votre vie. Vous devez rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Vous devez chercher à connaître le Saint-Esprit et les différentes manifestations du Saint-Esprit dans vos vies. Vous devez chercher à communier avec le Saint-Esprit pour entendre le Saint-Esprit vous parler, vous guider, vous orienter, vous fortifier quand il le faut. Donner la vie à vos corps mortels, comme on l'a si bien dit. Vous devez lire régulièrement la parole écrite. Je ne parle pas encore de la manne, ça c'est dans le lieu très saint. Je parle de la parole écrite. Vous devez étudier la parole. Vous devez méditer la parole. Vous devez la lire régulièrement. En pratiquant ces trois choses durant cette semaine, vous allez commencer à déclencher l'atmosphère céleste dans vos vies et autour de vos vies. Vous allez commencer à sauver vos âmes. Vous allez commencer à influencer votre âme. Le Saint-Esprit va commencer à prendre le contrôle de vos âmes. Et vos désirs charnels vont se taire. Et les désirs de l'Esprit vont commencer à prendre naissance, à prendre place dans vos âmes. Vos âmes qui étaient gouvernées par la chair autrefois, qui se dirigeaient vers les désirs charnels, ne vont plus écouter la voix de la chair, mais vont écouter maintenant la voix de l'Esprit. C'est ainsi que lorsque tu te lèveras un bon matin et que la chair te dira « va fumer », tu n'auras même plus envie de fumer. Tout d'un coup, les désirs de fumer vont disparaître parce que vous avez laissé le chandelier d'or éclairer votre lieu saint, votre âme. Vous avez été en communion sur la table avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Vous avez mangé de sa chair, vous avez bu de son sang. Et vous avez laissé la parole de Dieu, les pains de proposition, vous avez mangé les pains de proposition, vous avez laissé la parole de Dieu s'imprégner. Vous êtes imprégné la parole de Dieu, imprégné votre âme. Vous avez étudié la parole, vous l'avez médité la parole. Quelqu'un me comprend ici? Vous allez commencer à sentir la présence de Dieu s'installer dans vos âmes. Vous allez commencer à avoir des désirs et des pensées nouvelles qui viennent de Dieu. C'est le début d'une vie, d'une marche irréversible vers la sanctification. Lève nos mains vers le ciel. Lève nos mains vers le ciel. Seigneur, j'ai essayé d'enseigner. Ça n'a pas été facile parce qu'en même temps, le Saint-Esprit me pousse à prêcher. Mais je crois que ton peuple, pour ce dimanche, a compris ce qu'il devait comprendre. Et la suite viendra. Ma prière, Seigneur, pour Dieu, c'est qu'à travers les mystères que tu nous as révélés ce matin, Père éternel, tu révolutionnes notre foi. Que tu nous donnes, Seigneur, pour Dieu, un nouvel appétit pour aller chercher durant la semaine dans les Écritures. Afin de vivre et expérimenter ces choses. Parce que nous voulons le rakia de Dieu. Nous voulons le rakia de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Digère la parole. Digère la parole. Digérons la parole, digérons la parole, digérons la parole. Pendant que les chants sont en train de chanter ce chant pour terminer, vous élevez vos voix, parlez, 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 parlez. Rebrosi kamama, rebrosi kamama, korebrosi kamama, mama, mama. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Oh oui, en lui, en lui, croix de péché. Le Saint est là.